Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Les couilles sur la table, épisode 57, seconde partie de l'entretien avec Iris Bress sur le regard féminin à l'écran. Dans la première partie de cet entretien, on a compris que le female gaze n'était pas l'inverse du male gaze, qu'il pouvait être produit quel que soit le genre du réalisateur ou de la réalisatrice, et qu'il ne s'agissait pas d'objectifier les hommes comme on objectifie les femmes, mais bien de tout réinventer, la manière de filmer, de raconter des histoires, mais aussi de les évaluer en termes critiques. Alors comment se fabrique ce female gaze? À quoi est-ce qu'on peut le reconnaître à l'écran? Qu'est-ce que ce concept peut changer dans notre regard et comment est-ce qu'il pourrait révolutionner le monde de la critique? Il y a une phrase dans votre livre, vous dites « on sent la différence ». C'est si on regarde un personnage féminin danser ou alors si on est en train de danser avec elle. Mmh. Le female gaze, ce serait de construire des images de telle façon à ce que nous, comme spectateurs et spectatrices, on puisse s'identifier au personnage féminin.
Non, c'est pas s'identifier, c'est ressentir avec. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler à une définition autour de ce terme-là, j'étais un peu bloquée dans l'écriture parce que comme je partais du texte de Laura Mulvey qui était vraiment dans un cadre psychanalytique et du coup qui parlait beaucoup d'identification, j'étais perdue. Et j'ai décidé que c'était peut-être pas le bon angle et c'est là où j'ai lu d'autres travaux de féministes qui parlent beaucoup de phénoménologie et d'expériences vécues.
Oui, la phénoménologie, donc c'est une branche de la philosophie oui. Qui s'intéresse à quelle est l'expérience
vécue des corps,
ouais. Dans le corps.
Et en fait, c'est ça le female gaze, c'est pas la question de s'identifier avec l'héroïne, mais c'est de ressentir avec l'héroïne. Et ça paraît très simple, mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup de films qui, quand il y a une héroïne, la regardent à distance. Donc souvent, elle va être fétichisée ou elle va être... On va s'intéresser à elle comme une créature étrange, comme un obscur... comme un objet obscur qu'il faudrait s'approprier ou être fasciné. Non, c'est vraiment pas ça, le female gaze. Le female gaze, c'est être avec l'héroïne dans son corps et de ressentir avec elle ce qu'elle traverse. Donc c'est des films qui nous habitent souvent, parce que c'est des films habités.
Et est-ce que ça va induire aussi une autre relation entre nous, les spectateurs, et le filmant? Parce que ça, on n'en a pas parlé à propos du male gaze, mais ce male gaze créé, ça induit aussi un rapport de domination entre le film et les spectateurs et spectatrices, non?
Oui.
Comme si on était
captif.
Captif, en fait, du regard du réalisateur ou de la réalisatrice.
Oui, ce que j'essaye de dire, c'est que la plupart des films qui génèrent du female gaze nous traitent, nous, spectateurs, spectatrices, à égalité. C'est-à-dire que le réalisateur ou la réalisatrice s'adresse à nous. Et donc, on est considérés. Et ça change aussi beaucoup de choses dans ces rapports de domination. Donc, par quoi ça passe? Parfois, ça passe juste par l'humour. Et un exemple que j'aime bien donner, c'est dans le film de Céline Sciamma, quand à la fin, l'homme revient, parce que donc, c'est un film qui se déroule presque exclusivement...
Donc, Portrait de la jeune fille en feu, ouais. Qui est un film qui se déroule au XVIIe siècle.
XVIIIe
siècle, sur une île en Bretagne. Il n'y a que des personnages féminins dans le film. Il y en a eu un tout petit peu au début, parce qu'il y a des mecs, des hommes qui rament et qui amènent la peintre,
voilà.
Qui est jouée par
Noémie Merlant,
sur l'île. Et après, il n'y a plus d'hommes.
Exactement, il y a des hommes au début et à la fin.
Et
c'est le retour du patriarcat.
C'est ça. À un moment, il y a un mec qui arrive dans la cuisine et elles lui disent « Mais qu'est-ce que vous faites là ?»
Exactement. c'est en fait, c'est drôle. Assez marrant parce que dans la salle, les gens rient
oui.
À ce moment-là et ça opère quelque chose en fait. C'est que non seulement ça raconte que le patriarcat revient dans la maison et donc avec ce poids-là, mais c'est aussi un clin d'œil de la réalisatrice à nous, spectateurs, spectatrices, parce que il est filmé. En fait, c'est intéressant la manière dont c'est filmé. C'est un plan séquence. Donc, en fait, c'est comme un jump scare, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un homme qui arrive et genre, on est surpris par la présence de l'homme. Et du coup, c'est ça qui crée l'humour. C'est cette surprise. Et ça, c'est de la mise en scène. Et donc, ça crée un lien entre nous, spectateurs, spectatrices, et la cinéaste à ce moment-là. Parce qu'elle prend en considération notre surprise, notre effroi peut-être, à l'arrivée de cet homme. Vous voyez, c'est assez subtil, mais ça se ressent en fait quand on est dans notre fauteuil face à l'écran. Il y a certains films qui nous prennent de haut et il y en a d'autres qui nous prennent à égalité.
Qui nous incluent dans le film.
Oui, c'est ça le film Elgaï, c'est aussi réfléchir à l'inclusion.
Des spectateurs et spectatrices.
Oui. Bien sûr, et de penser qu'une œuvre d'art, elle est là pour être partagée. Et c'est ça le film Elgaï, c'est le partage d'expériences. Et c'est pas prendre quelque chose à son insu, c'est pas être dominé, c'est une nouvelle grammaire quoi, qui se joue à tous les niveaux en fait. Ça se joue à mon avis sur le plateau, ça se joue à l'écriture du scénario, ça se joue dans la manière de diriger les acteurs, les actrices, et ça se ressent quand nous on est face au film.
Où on se sent inclus, on se sent pas écrasé, on se sent pas dominé par le film.
Oui, c'est des dialogues.
Une autre technique que vous listez, qui aide au female gaze, ça peut être l'utilisation de la voix off, par exemple. Mmh. Pour être, donc toujours dans cette idée qu'on doit ressentir avec l'héroïne.
Oui.
Donc on peut partager ses pensées.
Oui. C'est une technique qui est, par exemple, beaucoup utilisée dans la série The Handmaid's Tale.
Dans La Servante Écarlate,
oui. Qui est... importante parce qu'elle nous place tout le temps dans le corps et le ressenti de l'héroïne. Mais par exemple, là, quand je regardais Titanic de James Cameron, j'avais oublié que c'était un flashback, en fait, Titanic. Et au début, on est avec Rose,
très vieille.
Et après, on commence la narration à travers une voix off. Et donc, on comprend qu'on pénètre dans son souvenir à elle. Et c'est, voilà, et qu'on va suivre son histoire à elle. Donc, c'est des techniques qui paraissent très simples, mais qui tout de suite nous placent quelque part. Et nous place dans la tête de quelqu'un.
C'est vrai que Titanic, c'est un film female gaze qui montre bien qu'on peut être, on peut faire du female gaze quand on est un réalisateur homme.
Ouais.
Et on peut faire du female gaze avec des films à gros succès et gros budget.
Ouais, énorme. Mais oui, bien sûr, comme Wonder Woman, énorme succès. Donc oui, le féminin peut générer de l'argent. Et je pense que quand on réalise ça, bah, j'espère que plus de réalisatrices vont avoir des budgets un peu plus importants. Mais en fait, c'est très très important que des œuvres comme Titanic ou comme Wonder Woman aient un tel succès. Mais c'est pas étonnant, parce qu'il y a tellement peu en fait, d'œuvres qui nous placent du point de vue féminin. On a tellement un besoin de voir ces expériences-là, de les partager, qu'on va voir ces films et qu'on les partage après entre nous. Ça, c'est...
Mais est-ce que vous pensez que Titanic a eu tellement de succès parce qu'il se plaçait d'un point de vue féminin?
Oui, je pense.
Ah oui?
Je pense qu'il y a beaucoup de... Je pense de manière consciente ou inconsciente, il y a eu une résonance, bien sûr, d'un récit qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir. Les histoires d'amour sont très peu racontées, en fait, du point de vue féminin, d'une expérience. Et en plus, c'est quand même une histoire d'amour qui réfléchit au pouvoir. C'est elle qui a plus de pouvoir que lui, qui a plus d'argent que lui. C'est quand elle lui demande de la dessiner, quand elle se met toute nue, vous savez, où elle est juste avec son collier.
Dessine-moi comme les femmes de Paris.
Voilà. Oui. Et mais dans la mise en scène, elle n'est pas du tout... objectifiée, c'est-à-dire que James Cameron ne la filme jamais comme un objet, mais comme un sujet. Et c'est elle qui demande à être filmée, à être dessinée.
Ouais.
Donc et elle est tout le temps active pendant qu'il dessine. Et même la manière dont il se regarde pendant le dessin raconte quelque chose. Et la scène de sexe, bah, c'est la même chose, en fait. Et la scène de sexe dans Titanic, de quoi ?
C'est sa main à elle qui caresse la vitre.
Ouais, où il y a de la buée. Et donc, qu'est-ce que ça raconte ? Ça veut dire qu'elle a pris du plaisir. Donc c'est
mais en même temps cette scène là c'est aussi un point de vue extérieur, c'est nous on est placé dans la position du voyeur quand même.
Non
parce qu'en fait on voit rien,
ouais, on regarde jamais à l'intérieur de ce qui se passe dans cette voiture embuée. Non, on voit la buée, on voit cette main et on sait qu'il y a eu un rapport, mais on n'a pas besoin de voir pour comprendre l'érotisme. Et après d'ailleurs c'est lui qui est tout chamboulé puisqu'il a du mal à respirer, qui reprend son souffle. Et donc tout ça, il y a une inversion en fait de stéréotypes de genre très forte au sein de Titanic. Et oui, je pense que c'est pour ça aussi que le film a eu autant de succès.
Vous citiez le film Wonder Woman.
Oui.
C'est un bon exemple de comment est-ce qu'on peut filmer autrement le corps féminin. Donc on a cité, on a beaucoup parlé du corps de la James Bond girl qui est filmé de bas en haut. Et vous, vous insistez sur la façon dont est présentée Wonder Woman, où elle n'est pas du tout filmée de bas en haut, justement.
Ouais.
Elle surgit de terre.
Ouais. C'est vraiment étonnant, ça m'a même surprise moi-même, c'est-à-dire que j'ai vu le film au cinéma et en fait j'ai ressenti que c'était qu'il se passait quelque chose de différent pour moi. Le début du film, il se passe sur une île et c'est que des corps féminins qui agissent, qui sont en train de s'entraîner, mais c'est que des corps féminins en mouvement. Donc déjà c'est hyper puissant et j'ai vraiment ressenti une émotion. J'ai été très très émue en voyant ces corps-là et on voit cette petite fille qui va devenir Wonder Woman regarder les autres femmes agir. Et quand elle met pour la première fois sa panoplie de super-héroïne qui pourrait complètement la sexualiser, hein, parce que son costume est un costume sexy, eh bien non, en fait, elle sort de terre. Donc, vous voyez, c'est le mouvement inverse. Au lieu d'avoir une caméra qui va de regarder de haut en bas une femme qui sort de l'eau, là, non, on accompagne son mouvement à elle, qui sort d'une tranchée. Et du coup, la caméra est avec elle au moment où elle sort de la tranchée. Puis la caméra se recule pour qu'on ressente la toute-puissance de cette femme qui arrive. Donc, ça paraît rien, mais en fait, c'est tout. Parce qu'elle va, elle n'est pas sexualisée. Elle est en puissance d'agir.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Autre technique possible pour créer du female gaze, c'est la caméra subjective. C'est d'épouser les mouvements de l'héroïne. Est-ce que vous pouvez citer des films qui utilisent ce procédé-là?
Par exemple, la scène de sexe d'Andrea Arnold dans Red Road, la femme bouscule à un moment une lampe qui tombe et on est dans avec elle qui bouscule, c'est-à-dire qu'on se prend des chocs, vous voyez. Donc ça, c'est on est dans une caméra à l'épaule qui suit vraiment ce qui se passe. Mais c'est des techniques aussi qui peuvent être utilisées. Les scènes de viol dans The Handmaid's Tale. Il y a tout un travail aussi parfois sur le temps qui ralentit parce que l'expérience nous paraît beaucoup plus longue. Tout d'un coup, le temps où tout d'un coup ça va être totalement bousculé, comme si elle perdait son orientation. Vous voyez, la caméra peut vraiment être très près du corps et nous faire ressentir l'expérience, sa violence, mais aussi le temps qu'elle prend. Tout ça, on peut travailler sur les ralentis, mais on peut aussi travailler sur un montage. Donc, on peut être très très près des corps sans être forcément dans le gros plan, juste par les mouvements de la caméra qui relate l'expérience.
Ou par le montage.
Oui.
Donc là, on prenait l'exemple du viol, mais vous citez un autre exemple dans le livre qui est dans la série The Deuce, où donc c'est une série sur les débuts de l'industrie pornographique.
Oui.
Et il y a une réalisatrice de films pornographiques qui est aussi une prostituée.
Oui.
Et qui propose un montage au producteur où c'est un montage alterné entre des images pornographiques et des images qui n'ont apparemment rien à voir, qui sont un ventilateur qui tourne au ralenti, du jus d'orange qui coule, un mec en costard, une lionne qui poursuit un zèbre. Et en fait, c'est magnifique déjà comme montage. Et en fait, on comprend qu'on est dans le corps de la femme qui va avoir un orgasme.
Voilà, c'est la montée de l'orgasme.
Et sauf que les producteurs disent, ils sont consternés en fait par ce résultat.
Oui, parce que c'est pas efficace. Parce qu'ils considèrent en fait ce montage comme étant pas efficace, parce qu'il nous place du point de vue de la montée de l'orgasme du personnage féminin dans un film pornographique. Mais c'est une série brillante parce qu'elle ne fait que réfléchir en fait dans les saisons 2 et surtout la saison 3 à comment est-ce qu'on fait pour... pour trouver des nouvelles techniques filmographiques pour raconter le plaisir et le désir féminin du point de vue féminin. Et c'est ce personnage-là de Candy qui devient cinéaste parce qu'elle a envie de raconter sa propre histoire et ses propres récits qui lutte en fait avec les codes de la pornographie traditionnelle et qui les déconstruit. Donc,
et qui doit faire face à des producteurs qui lui disent « Mais enfin, mais qui a envie d'être dans la tête d'une femme ?»
Oui, et c'est très important qu'ils mettent... En fait, c'est une mise en abîme, évidemment, de tout ce qui se passe. Et beaucoup de personnes, en fait, ont envie d'être dans la tête d'une femme. Et ça pose la question aussi de comment est-ce qu'on représente l'orgasme féminin et la jouissance féminine. Et peut-être qu'il faut réinventer des manières de filmer ça et de raconter ça et de ne pas le faire juste... comme les hommes racontent l'orgasme masculin, de se dire que ça peut être une autre expérience.
Oui, donc ce serait par exemple un gros plan sur le visage d'une femme. Et déjà, ça n'existe pas, parce que vous dites très rarement, l'orgasme féminin est très rarement représenté.
Oui, de plus en plus dans certaines séries, mais ça reste très rare. Mais une des... Pour moi, il faudrait qu'on parle un tout petit peu de Jill Soloway, qui est la showrunneuse de Transparente et de I Love Dick. Où justement là on voit vraiment une femme qui a des orgasmes et on voit la construction en fait de son plaisir et de son désir et on voit qu'elle pense à un autre homme pendant qu'elle couche avec son mari pour atteindre l'orgasme et qu'aussi l'orgasme il passe par des lettres qu'elle écrit à cet homme. Donc il y a ça, c'est des choses qu'on voit jamais mais qui sont très très importantes je trouve, parce que ça nous montre aussi qu'on peut penser à quelqu'un d'autre quand on fait l'amour, qu'on peut prendre du plaisir dans la création et que ça peut passer aussi l'érotisme par l'écrit, par l'invention d'un langage commun, en fait, même si ces lettres qui sont adressées donc à Dick, à Richard, lui ne lui répond pas tout de suite. C'est quand même, elle invente une nouvelle langue amoureuse, en fait, cette héroïne. Et la série est basée sur un livre de Chris Cross qui a vraiment écrit un roman épistolaire à ce fameux Dick.
Qui a été aussi très tardivement traduit. Hein. Ça a été traduit par Alice Zeniter il y a
exactement,
3 ans.
Ouais.
Mais restons sur cette idée de représentation du désir, de son fantasme et tout. C'est vrai que ce qui est frappant dans la série I Love Dick, donc qui a été annulée au bout d'une saison.
D'une saison, ouais.
Alors que c'est... Enfin, moi, je trouve cette série géniale. C'est quand même splendide. Vraiment, c'est quelque chose à regarder si vous voulez voir à quoi ça ressemble du pur female gaze.
Notamment.
C'est une bonne idée de regarder I Love Dick, quoi.
Et notamment au niveau du montage, on parlait du montage. Mais ce qui est très beau dans le début d'I Love Dick, c'est que, elle dîne avec deux hommes qui, en gros, la méprisent. Et
elle est réalisatrice de films. C'est juste ça. Le personnage principal, elle est réalisatrice de films, mais on comprend que ça marche pas bien pour elle, quoi.
Voilà.
Et les deux personnages qui sont donc l'homme sur qui elle va fantasmer, Richard, et
son mari,
son mec,
Silver,
ont une discussion sur... Enfin, ils se moquent un peu d'elle sur le fait qu'elle n'ait pas de succès avec ses films. Et Richard lui dit, je pense que les femmes, de toute façon, ne font pas du bon cinéma parce que c'est une question de volonté. Si elles le voulaient vraiment, elles feraient des bons films. Et les femmes ne peuvent pas faire des bons films parce qu'elles sont tellement en retard sur tout que...
Elles sont tellement opprimées qu'elles ne peuvent pas faire des
bons films.
Voilà.
Et là... Elle dit tout de suite, hyper vite, elle dit Chantal Akerman,
Sally Potter
et Jane Campion.
Et Jane Campion, oui. Et au moment en fait, où elle dit ces noms-là, on a un montage visuel de quelques images, de quelques secondes de chacun de ces films. On voit Orlando de Sally Potter, on voit
La
leçon de piano et on voit Jeanne Dielman. Donc c'est très beau, en fait, parce que nous, on peut parfois reconnaître ces images et du coup être vraiment, même dans son imaginaire, mais aussi dans un héritage. C'est-à-dire que ces images-là, c'est aussi notre héritage. Et c'est ce que j'essaye de faire avec ce livre, c'est de dire, il existe, ces films, ils existent, ils sont là, il faut juste qu'ils nous accompagnent un peu plus parce qu'ils ont été trop souvent effacés. Et du coup, c'est radical comme geste de cinéaste, parce que non seulement à travers le montage, on comprend qu'on est dans sa tête et dans sa mémoire de ces films-là, mais en plus, ça nous dit que ces films-là ont disparu et qu'il faut les réinscrire dans une mémoire collective.
vous appelez ça nos images manquantes. Il y a toute une partie d'une histoire importante du cinéma qui a disparu, qui n'a pas été transmise. Parce que le female gaze, c'est pas un concept nouveau. Vous dites que le female gaze existe dès l'invention du cinéma, en fait.
Oui.
Avec la réalisatrice Alice Guy, vous écrivez qu'elle a réalisé le premier film female gaze qui s'appelle Madame a des envies, en 1908. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce film, de qui était Alice Guy et de pourquoi ça montre que le cinéma qu'on connaît, c'est un cinéma patriarcal?
Alors déjà, c'est-à-dire que le terme female gaze, là, on a commencé à beaucoup le voir dans les médias américains comme synonyme de regard de femme. Mais c'est pas ça. Hein. Le female gaze, c'est que des hommes et des femmes peuvent le faire. Sauf qu'il y a eu beaucoup plus de femmes qui ont généré des films female gaze. Et quand j'ai commencé à vraiment faire de la recherche, je me suis rendu compte, en fait je pensais que c'était Germaine Dulac qui est une cinéaste des années 20, des années 30, et en fait je suis remontée jusqu'à Alice Guy, et en regardant les films d'Alice Guy, j'ai vu Madame a ses envies, qui est l'histoire d'une femme enceinte qui a envie de mettre des objets phalliques dans sa bouche. Et en faisant de la recherche sur Alice Guy, je me suis rendu compte qu'elle a inventé le gros plan au cinéma pour nous faire ressentir l'expérience de cette femme qui prend du plaisir. Et Alice Guy, il faut savoir que c'est elle qui comprend que le cinéma est là pour raconter des histoires. Parce qu'on a les frères Lumière à la même époque qui font des documentaires, et elle qui décide que ça va être de la fiction. Donc c'est extrêmement important. Et pourtant, son nom, il a été invisibilisé, il a même été effacé, il n'est plus enseigné, alors que son apport au cinéma, il est majeur, et il est même, pour moi, bien plus important que ce que racontent, en fait, les films des frères Lumière. Donc, nous, on est resté sur l'arrivée du train en gare de la Ciotat.
Comme étant le premier film.
Et c'est vrai que c'est les frères Lumière qui ont commencé à faire des images et à enregistrer ça, et ça produisait quelque chose. Mais c'est Alice Guy qui a compris qu'on pouvait raconter des histoires et de la fiction, et que ça allait servir en fait à nourrir nos imaginaires. Et ça, c'est tellement, tellement puissant. Et surtout aussi, il y a beaucoup d'humour. C'est-à-dire que quand on regarde Madame a ses envies, déjà, c'est extrêmement subversif. Aujourd'hui, on ne voit jamais des femmes enceintes qui ont des envies sexuelles. Jamais, en fait, déjà. Donc, c'est de base, le scénario est cool. Mais en plus de ça, elle invente le gros plan pour pouvoir nous raconter ça. Et y a tellement d'humour. Elle s'adresse tout le temps à nous. Elle veut nous faire rire, en fait. Et c'est une très, très grande cinéaste dont l'œuvre a été détruite. Et pas archivé,
et
méprisé, et pas enseigné, mais juste parce que c'était une femme.
Pourtant, là, elle est en train d'être réhabilitée un tout petit peu.
J'ai
vu que Scorsese, par exemple, avait fait un discours en son honneur.
Oui.
Martin Scorsese, en disant que c'était une des plus grandes cinéastes, qui elle avait inventé le cinéma et qu'elle avait un regard subtil et puissant et intéressant.
Ouais. Et il y a un documentaire aussi qui va sortir en France cette année qui s'appelle Be Natural. Donc, soyez naturel, puisque c'est apparemment la première à avoir dit ça aux acteurs. Soyez naturel, ça nous paraît en fait totalement normal, mais de dire à des acteurs de pas jouer, en tout cas de comprendre que la direction d'acteur c'est quelque chose, c'était aussi elle.
Pourquoi est-ce que il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui vont générer du female gaze, alors qu'en fait on a bien vu que c'est pas une question de genre ou du sexe du réalisateur ou de la réalisatrice. Les hommes peuvent produire des œuvres female gaze, mais pourquoi est-ce qu'ils en ont pas produit?
Je pense que le féminin, les expériences féminines les intéressent moins. Je pense aussi que ça demande un gros travail, en fait. Ça demande un travail de déconstruction énorme, de savoir reconnaître ses automatismes et la manière dont on aime filmer. Donc, je pense qu'il y a un mélange de paresse et d'inconscient. Et après, peut-être aussi une certaine résistance, c'est-à-dire que je peux comprendre qu'on n'ait pas forcément envie de raconter des expériences féminines si ça ne nous intéresse pas. Donc le livre, c'est pas du tout de dire il faut absolument que tous les hommes s'emparent des expériences féminines et les mettent en scène, mais c'est de s'interroger de manière collective sur pourquoi est-ce que les expériences féminines ont moins de valeur que les expériences masculines.
D'expériences féminines très concrètes comme l'accouchement, vous dites, on a parlé d'orgasme, mais aussi des règles,
l'avortement, la poussée des seins, la ménopause, tout ce qui est en fait, mais même la sensation de discrimination, c'est-à-dire les expériences féminines et le corps féminin comme corps physique, mais aussi comme corps social. Parce qu'évidemment, toutes les femmes ne vont pas tomber enceinte, toutes les femmes ne vont pas accoucher, mais de manière quasiment... oui, je pense que quasiment toutes les femmes vont faire l'expérience de discrimination et se sentir pas considérées parce qu'elles sont femmes. Donc oui, c'est d'essayer de penser de manière globale à qu'est-ce que c'est qu'une expérience féminine aujourd'hui, et même depuis toujours.
Et ça, peut-être que ça intéresse moins les hommes, oui.
Oui.
Je ne comprends pas, enfin, je crois que c'est difficile à appréhender quand on a grandi comme femme, parce que nous, on a été éduqués et habitués, de par toutes les fictions qu'on consommait, à s'identifier aux héros masculins, à s'intéresser à leurs problèmes, à voir le monde à travers leurs yeux. Et moi, ça ne me pose pas de problème, je trouve ça vraiment intéressant. Mais c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus d'hommes qui cherchent à voir le monde à travers des yeux de femmes, à travers l'expérience féminine.
Mais de toute façon, je pense que le moment MeToo, il était aussi révélateur de ça. C'est-à-dire que tous les hommes qui découvraient que les femmes étaient harcelées, agressées sexuellement, qu'on pouvait avoir peur dans la rue, cette grande découverte raconte quelque chose. C'est quand même que la plupart des hommes ne s'intéressent pas à ce que c'est que de vivre dans le corps d'une femme. Voilà, donc...
Et le cinéma peut nous aider à ça.
Et le cinéma peut montrer que ça a beaucoup de valeur, en fait, et que ces images manquantes, il faut qu'elles soient, qu'on interroge collectivement pourquoi est-ce qu'elles ont été absentes jusqu'à présent, et surtout quand elles ont existé, pourquoi est-ce qu'elles ont disparu, et que la censure, en fait, elle est de ce côté-là. Parce que ces images-là, elles ont été invisibilisées de manière consciente. C'est-à-dire
consciente ?
Ah oui, je pense, ouais. Parce qu'en fait, tout ça, c'est des choix. C'est des choix. Quels sont les films qu'on met en valeur ? Ce sont des choix. Quels sont les films qui sont montrés à la Cinémathèque ? Quelles sont les réalisatrices qui sont montrées à la Cinémathèque ? Quelles sont les rétrospectives ?
On redit qu'en 12 ans, à la Cinémathèque française, qui est dirigée par un homme, il y a eu seulement 6 rétrospectives consacrées à des réalisatrices.
Oui, notamment une qui s'appelle Dorothy Arzner, et dont le texte de présentation de l'œuvre était extrêmement sexiste,
j'en parle dans le livre.
Donc il faut s'interroger de manière globale sur comment est-ce que ces films-là, comment ces cinéastes, comment ces films-là sont présentés, qui les présente, où sont-ils, et pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas plus conservés et plus valorisés.
Ça, c'est une, donc là, on va commencer à parler de la critique, en fait, de comment, de ce que ça implique pour la critique, mais juste pour enfoncer le clou, moi, ce qui me frappe à la lecture de ce livre, c'est que je me dis, mais c'est pas du tout une question morale, parce que parfois on peut caricaturer votre discours ou les analyses féministes des films en disant, voilà, elles veulent moraliser l'art, le cinéma va disparaître, elles vont assassiner le cinéma, elles veulent censurer, elles veulent, c'est bête, c'est complètement stupide comme façon de regarder le cinéma, c'est pas parce qu'un film passe le test de Bechdel que c'est un bon film, etc. Mais évidemment, et en fait, ce qu'on voit dans votre discours, c'est que c'est pas une question morale, c'est des questions esthétiques. En fait, de si on adopte le female gaze, si on se pose des questions en termes de genre sur les films, ça va nous aider à faire de meilleurs films, à mieux les regarder, à mieux ressentir les choses, à créer des nouvelles images, enfin à faire progresser l'art.
Oui, on se rend bien compte que dans cette réception et cet argument de la morale, il y a beaucoup de peur. La peur de voir différemment, la peur que les films male gaze disparaissent. Ils vont jamais disparaître et tout le monde a le droit de continuer à prendre du plaisir à les regarder. C'est vraiment pas ça, c'est de se dire qu'il y a autre chose qui existe et que c'est extrêmement réjouissant parce que les films en fait qui défont ces codes-là sont en train d'inventer des choses. Et l'invention, bah, c'est toujours excitant. Donc il faut... Moi, la question de la morale, en fait, je la comprends pas du tout parce que en plus, les films dont je parle ne sont jamais moralisateurs. Ce ne sont que des films qui sont en dialogue, qui essayent d'aller au-delà en fait, de ce qu'on connaît. Après, on pourrait peut-être parler d'éthique, oui. Éthique, oui. On peut parler voilà, de réfléchir au cinéma en termes de philosophie morale et donc d'éthique. Ça pourrait être intéressant.
Y compris dans des termes très concrets, par exemple les rapports de pouvoir qui existent entre les réalisateurs, les réalisatrices et les acteurs et les actrices.
Oui.
Comment est-ce qu'ils sont dirigés, notamment dans les scènes de sexe ?
Ben oui, mais c'est-à-dire que les réalisateurs qui ont peur souvent, enfin moi ce que j'entends, c'est la scène de sexe, j'ai peur que ça manque que ce soit pas assez spontané, donc on va pas trop diriger, on va pas trop parler, on va dire action, puis je vais diriger un peu tout ça de manière floue pour qu'il y ait quand même de la poésie, du naturel, etc. Mais non, en fait, les scènes de sexe, ça devrait être considéré comme des scènes de cascade qui sont préparées, qui sont réfléchies, où le cadre raconte quelque chose, où la scène de sexe raconte quelque chose. Et en fait, je pense que la plupart des scènes de sexe où les réalisateurs et les réalisatrices ne veulent pas trop réfléchir, c'est souvent parce qu'elles racontent rien, ces scènes. Mmh. Et qu'à partir du moment où on se pose vraiment la question de pourquoi on filme le sexe et comment on le filme, ben on se retrouve face à des très très grosses questions sur son scénario, sur la mise en scène, mais aussi sur son propre plaisir et sur son propre désir. Et donc de déconstruire son plaisir et son désir, c'est violent, c'est difficile, ça demande du travail et ça demande même du courage. Donc je comprends que certains et certaines n'aient pas envie de le faire et je n'exige pas du tout qu'ils le fassent. Par contre, je me rends bien compte que ceux et celles qui font ce travail-là, eh ben, ça produit des très grandes scènes, ça produit des très grandes œuvres, voire des chefs-d'œuvre.
Là, on en l'a vu récemment dans Portrait de la jeune fille en feu. Donc c'est vraiment, si vous n'avez pas vu ce film, il faut voir Portrait de la jeune fille en feu. Enfin, c'est une splendeur. On n'avait jamais vu ça. Il y a plein de scènes, d'images qu'on n'avait jamais vues. Et par exemple, dans la scène de sexe, mm-hmm. entre les deux personnages...
Qui sont deux femmes,
il y a ce geste qui pourrait paraître incongru, mais qui est magique, qui est un doigt glissé dans une aisselle. Et tout est dit, en fait. Et c'est d'un érotisme fou. Et on est surpris de trouver ça érotique. On n'a jamais vu ça avant.
Ben voilà, exemple d'un chef-d'œuvre. Mais c'est aussi que ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une scène de sexe simulée. C'est-à-dire que c'est un doigt vraiment qui pénètre une aisselle. Et c'est là où c'est subversif. C'est-à-dire que la plupart les scènes de sexe qu'on regarde en dehors de la pornographie font toujours semblant. Ils sont toujours simulés. Donc qu'est-ce qui se passe quand c'est un vrai doigt, une vraie aisselle et un vrai va-et-vient? Eh ben, ça raconte autre chose d'un rapport érotique et ça nous place aussi, spectateurs, spectatrices, dans un autre rapport à cette scène. C'est que tout d'un coup, on a l'impression de voir du vrai et de voir du beau et de réinventer notre manière de désirer. Mais ça, c'est d'une puissance folle.
Ok, donc à partir de toute cette grille d'analyse, vous vous proposez un test qu'on va résumer là, donc pour savoir si on est en présence ou non de female gaze. Mmh. Vous dites qu'il y a 6 questions à se poser. Mmh. C'est d'abord, est-ce que le personnage principal s'identifie en tant que femme ? Ensuite, c'est est-ce que l'histoire est racontée de son point de vue ? Est-ce que son histoire remet en question l'ordre patriarcal ? Alors ça, je trouve ça un peu difficile à évaluer.
Oui, c'est-à-dire qu'on peut remettre en question de l'ordre patriarcal par des choses très simples, d'avoir un personnage, par exemple, qui va pas forcément tomber amoureuse d'un homme ou forcément se marier, que le dénouement du film ne soit pas toujours la même chose dans les rapports hétérosexuels où une femme ne peut être heureuse qu'avec un homme. C'est des choses très très simples,
mais assez rares finalement. Hein,
hyper rares.
Où on est presque frustré parfois quand l'histoire d'amour n'arrive pas entre les deux personnages, quand il n'y a pas de scène de baiser, quand ils ne se retrouvent pas, quand ils sont juste amis.
Voilà.
Ensuite, il y a 3 autres critères, qui sont là des critères vraiment formels, dont on a parlé juste avant. Vous dites qu'il faudrait, on est en présence de female gaze, quand grâce à la mise en scène, le spectateur, spectatrice, ressent l'expérience féminine. Cinquièmement, que si les corps sont érotisés, le geste doit être conscient. Donc c'est pas gratuit, ça arrive pas par hasard, c'est pas. Et sixièmement, que le plaisir qu'on prend comme spectateur, il ne découle pas de la scopophilie, donc du plaisir de regarder comme des voyeurs.
Oui.
Que ce soit une autre forme de plaisir.
Oui.
Parce qu'en fait, c'est ça aussi. Vous êtes pour la diversité des plaisirs. Vous dites, vous aimez toujours prendre du plaisir scopophile, là, du plaisir de voyeur et voyeuse au cinéma.
Oui.
Mais ce que vous dites, c'est qu'il y a d'autres façons de prendre du plaisir au cinéma.
C'est ça. Donc c'est une démultiplication des plaisirs, donc c'est quelque chose de joyeux, encore une fois, c'est d'essayer de... Et puis ces 6 points, c'est pour essayer de simplifier une lecture, mais qui en fait est toujours complexe, et aussi de trouver des films qui ne rentrent jamais dans aucun critère. C'est pour moi, c'est vraiment questionner les œuvres et dialoguer avec elles, et c'est ça qui est intéressant dans la critique, et c'est ça pour moi qui me manque. C'est de se dire qu'on est... Il faut qu'on... Ouais, que ce soit un rapport dynamique, en fait, entre les critiques, le cinéma, les spectateurs, l'œuvre, et qu'on soit pas figé, qu'on soit en action tous, et qu'on soit en mouvement, mais même intellectuel.
Et aussi, donc, on prenne en compte ce qui se passe dans la société, que ça nous force à réfléchir différemment au cinéma. Moi, je ne comprends pas. En fait, je regarde... Donc, j'écoute les critiques, je vais au cinéma, j'écoute les émissions critiques, je les lis, etc. Et je ne comprends pas la répugnance ou la peur provoquée par les analyses féministes, en fait. Je ne comprends pas. Alors que là, on a bien vu que ça permettait d'enrichir notre regard, que ça permettait de se poser d'autres questions esthétiques. Donc, pourquoi est-ce que les critiques ne prennent pas en compte le genre dans leur façon de regarder ?
Parce qu'ils pensent que le genre est une approche sociologique et que du coup, ils ne veulent pas réfléchir à l'art à travers la sociologie. Mais pourtant, de réfléchir à la manière dont les corps féminins et masculins sont filmés, ça va au-delà de ça, parce que du coup, là, on parle d'esthétique et de mise en scène. Et c'est ce que j'essaye de faire avec le livre, c'est-à-dire c'est de ne pas penser « Ah tiens, ce film reflète une réalité sociale et donc c'est intéressant ». Non, c'est d'aller au-delà de ça, de se dire « Comment est-ce qu'on filme ? Quels sont les cadres ? Qu'est-ce qui reste hors champ ?» Et se poser toutes ces questions-là, bah forcément, en fait, on commence à réfléchir au rapport homme-femme, puisque beaucoup de films parlent de ça aussi. Mais c'est aussi de réfléchir en tant que critique. Écrire en fait un texte critique, c'est aussi émettre une parole qui est une parole subjective, donc on parle de quelque part. Et en France, on a beaucoup de mal à exprimer ça, à se dire que oui, en tant que critique, on est aussi le produit d'une société, d'un parcours, et que même si en France, on écrit très peu avec le « je » et la première personne du singulier, c'est quelque chose qu'on ne fait pas dans les critiques, qui ne se fait pas dans les critiques de cinéma. Pourtant, on parle bien de quelque part. Et donc, il faut avoir conscience aussi de ça, je pense.
Les critiques devraient avoir conscience de leur corps ?
Je trouve que c'est très, très important d'avoir conscience de son corps, ouais. Moi, c'est quelque chose que j'apprends aussi de manière très tardive, mais c'est comme ça que j'ai écrit le livre. En fait, je me suis posé la question... Parce que quand j'ai voulu définir le female gaze, c'était très compliqué. Je me suis dit, c'est quoi l'approche méthodologique, quoi ? Comment est-ce qu'on fait ? Et j'ai fait confiance à mon corps, d'abord. C'est-à-dire que je sentais quelque chose de différent dans mon corps, et c'était mon premier instinct, c'était ça. C'était de me dire, je vais lister tous les films qui m'habitent, en fait, qui sont dans ma peau, qui sont dans ma chair et qui font que l'écran de cinéma, ben, c'est pas un écran, c'est une peau et que ça transpire. Et donc, j'ai établi un premier corpus comme ça avant de pouvoir délimiter ces 6 points dont on vient de parler. C'était d'abord une expérience physique. Et ça, c'est quelque chose qu'on est censé oublier quand on est critique, parce qu'on est censé être dans la pensée, qu'on est censé être dans le logos, qu'on est censé ne pas réfléchir au corps, parce que on est dans une société où les expériences corporelles sont moins importantes que les expériences intellectuelles.
On rappelle, parce que ce sont des expériences codées comme féminines, on va dire que le corps c'est du côté du féminin, et donc la bonne critique, la façon rationnelle de réfléchir au film, ce serait une pensée détachée du corps. Pensée masculine, encore une
Absolument.
Fois.
Absolument. Et d'ailleurs, on moque souvent quand on dit « Ah, on a vu des personnes s'évanouir dans la salle » ou « C'est des choses où les personnes font des malaises » ou... Mais en fait, moi, toutes ces expériences physiques au cinéma, que ce soit le rire, que ce soit le malaise, que
soit les pleurs,
l'excitation, tout ça, ça raconte quelque chose qui devrait, moi, je pense, être pris en compte quand on écrit une critique de cinéma. Pourquoi est-ce que l'expérience corporelle n'aurait pas de valeur ?
Donc on peut aussi réinventer la critique. On peut aussi créer d'autres chapelles. On n'est plus obligé de subir les critiques misogynes. J'ai été très frappée par l'enquête de Marine Turki dans Mediapart, où elle a quand même analysé 96 émissions du Masque et la Plume, et elle a montré... à quel point cette émission était pleine de remarques misogynes, sexistes, racistes, etc. Et ça nous... On peut s'y habituer, en fait, l'oreille peut s'y habituer, on peut juger normal cette façon de parler des films. Et en fait, ça n'est pas normal, et en fait, on peut faire autrement. On n'est pas obligé de parler des films comme ça, on peut adopter d'autres regards sur les films.
Absolument, je pense que ça devient même urgent. Ce que cette enquête, elle révèle, c'est à quel point on s'habitue en fait au sexisme et à la misogynie, parce que si on entendait les mêmes remarques sur les hommes, ce serait différent, mais on n'entend jamais en fait ces remarques sur les hommes acteurs ou sur les metteurs en scène. Et c'est quelque chose aussi qu'on voit dans les cahiers du cinéma et que je dénonce à la fin du livre, c'est-à-dire que quand ce sont des femmes qui réalisent, souvent il y a certains adjectifs comme « impensé » qui arrivent, comme si les femmes ne pensaient pas à leurs gestes de cinéaste. C'est d'un sexisme fou. Et en fait, on s'habitue tellement à tous ces mots, à tous ces réflexes, qu'on ne les voit même plus. Et c'est ça que démontre cet article de Mediapart, c'est qu'il faut qu'on arrête de s'habituer de parler des choses d'une certaine façon, et qu'à partir du moment où en fait, on réfléchit au code, eh ben, on peut aussi réinventer la critique et se positionner différemment face aux œuvres. Et oui, il y a d'autres manières d'écrire, c'est-à-dire que même dans le style des articles, on peut réinventer une forme. Il y a plein de choses à réinventer aujourd'hui, et on pourrait accompagner ces nouveaux films qui ouvrent nos imaginaires aussi d'un nouvel imaginaire critique et d'une nouvelle manière de penser le cinéma. Et c'est urgent.
Et d'écrire sur le cinéma et d'en parler,
oui,
et de l'enseigner.
Oui.
Vous avez décidé par exemple que vous ne montriez plus dans vos classes, dans la programmation que vous faites, vous ne montrez plus les œuvres des cinéastes qui sont accusés d'agression sexuelle.
Oui.
Terminé. Et on pourra vous dire c'est de la censure, et vous vous dites, non, en fait, je fais juste un choix pour montrer d'autres œuvres.
Non, parce que la censure, ce serait d'éradiquer leur nom. Or, c'est pas ce que je fais, c'est-à-dire que je dis, oui, Luc Besson a existé, il a été important dans les années 80 pour le cinéma du look, vous pouvez regarder Subway, je l'écris au tableau, le nom existe, mais c'est de se dire qu'on peut passer plus de temps à parler de quelqu'un d'autre et d'un autre imaginaire.
Alors, donc, je dis pas que. Pour le cinéma du look, par exemple,
Je regarde Carax, je monte Carax, Les Amours du Pont-Neuf, ouais. Donc c'est pas de dire que tous les réalisateurs qui sont accusés d'agressions sexuelles produisent des œuvres qui vont montrer des agressions sexuelles ou qui vont banaliser les agressions sexuelles. Non, en fait, c'est juste de questionner qu'est-ce qu'on met en valeur dans notre société, quels sont les récits qu'on met en valeur. Et moi, j'ai envie de mettre d'autres récits et d'autres noms. De dire qu'il y a d'autres personnes qui existent et qu'il est temps aussi qu'on se questionne sur pourquoi est-ce que tous ces hommes qui sont accusés d'agression sexuelle continuent à être vus comme des grands artistes, quand parfois, tout simplement, ils ne le sont pas. Et aussi, je pense qu'il faut qu'on ait un moment où c'est important en fait, de faire des choix. C'est-à-dire que vous pouvez aller voir le film de Roman Polanski, mais vous avez aussi le choix de ne pas aller le voir. Est-ce que c'est de la censure ? Non. Son œuvre, elle existe, il a de l'argent pour faire ses films, tout va bien. Mais est-ce que vous avez tous lu le témoignage de Samantha Gamer qui explique comment elle a été violée par cet homme ? Non, parce que ça demande un peu plus d'effort, parce que ça demande d'aller sur Internet, de faire de la recherche, et que c'est pas un récit qu'on peut trouver facilement, et que c'est pas aussi un récit qui est facile à lire. Mais tout ça, ça pose la question de comment on a envie de vivre le cinéma, les récits, les imaginaires, et qu'il y a un travail à faire, un travail collectif. Donc oui, je décide de plus enseigner les œuvres d'hommes qui sont accusés de viol. Je décide de mettre la parité dans les films que j'enseigne, à autant d'hommes cinéastes que de femmes cinéastes. Et oui, j'essaye de remettre des récits qui parlent d'un point de vue féminin au centre en fait de mes études et de ma recherche pour arrêter l'invisibilisation.
Et en même temps, vous pouvez très bien continuer à adorer des films de Mel Gaze, à trouver que c'est des films très réussis. Il y a des films sexistes qui sont très réussis, qui sont de très bons films. Il y a des films peut-être female gaze qui sont pas très intéressants. C'est pas parce qu'un film passe le test de Bechdel qu'il va forcément être super. Est-ce que vous, il y a encore des œuvres de pure male gaze que vous adorez ?
Oui, il y en a plein. Mais par exemple, Persona de Bergman, je prends encore beaucoup de plaisir à le voir. Et c'est par exemple une œuvre qui continue beaucoup à m'interroger. Et il y a eu, d'ailleurs, j'en parle dans le livre, mais c'est une note en bas de page qui fait plusieurs pages, je crois. Mais sur, voilà, comment est-ce qu'on parle du plaisir féminin, de l'orgasme. Ça, c'est très important dans Persona. Et pourtant, c'est pas du female gaze. Et pourtant, ça continue à m'intéresser. Et il y a une fascination pour les comédiennes. Et il y a une fétichisation aussi pour ces comédiennes. Mais je continue à prendre du plaisir à regarder le film. Ça n'enlève rien, en fait, d'ouvrir les yeux. Ça permet juste d'être éclairé.
Je me suis rendu compte aussi en lisant votre livre et puis en discutant avec des cinéphiles que j'ai beaucoup été au cinéma, on m'a beaucoup emmenée au cinéma. J'ai vu peut-être 2 films par semaine depuis que je suis petite et pourtant je me suis jamais sentie autorisée à parler de cinéma parce que ceux que j'entendais parler de cinéma, qui étaient des garçons, avaient les références qui n'étaient pas les miennes. Et je me sentais un peu comme quand je parlais de musique avec des gars qui étaient passionnés de musique, ils étaient à fond sur la description genre des caractéristiques techniques des pédales de guitare qui étaient utilisées dans tel album et tout. Et franchement, moi, je m'en foutais en fait. Mais je me disais, si je m'en fous, c'est que je dois pas tellement aimer la musique. Et pour le cinéma, j'ai un peu eu la même impression. C'est-à-dire, par exemple, j'aime pas les westerns, ça m'intéresse pas. Mais j'avais l'impression que aimer vraiment le cinéma, c'était aimer les westerns. Donc,
oui, y a
qu'est-ce
plein
qu'on
de
peut dire de... Est-ce que la critique cinéma légitime, est-ce que les discours légitimes sur le cinéma, ce sont des discours androcentrés, masculins ?
Évidemment. Mais déjà, quand vous dites déjà ça, vous dites tout. C'est-à-dire, la question de la légitimité, quand on est critique et quand on est une femme, elle est très importante parce qu'on essaye d'abord de rentrer dans les codes et dans certaines chapelles. Donc ça veut dire avoir les bonnes références. Mais qui a décidé que c'était les bonnes références ? D'avoir vu tous les westerns américains ou d'avoir vu tout Bergman, même si évidemment c'est important d'avoir une culture cinéphile, mais il faut bien comprendre que cette culture cinéphile, elle a aussi été construite majoritairement par des hommes et dans une certaine valorisation de certains récits, de certaines esthétiques. Donc moi je pense que c'est étonnant que Chantal Akerman ne soit pas un nom prononcé par toutes les critiques tout le temps. Parce que pour moi, c'est une des plus grandes cinéastes. Et pourtant, je l'ai découverte très tardivement, parce que ça pose aussi la question de la transmission. Quand on essaye de rentrer dans des mondes masculins, on adopte ces codes-là. Parce qu'on a aussi envie d'être aimé, tout simplement.
Et accepté, on veut faire comme les garçons.
Donc on reproduit tout un imaginaire qui appartient en fait au boys club. Et à partir du moment où on comprend qu'on n'a plus envie de faire plaisir... Et on n'a plus envie de faire plaisir aux garçons, mais aussi aux papas, parce que tout ça, c'est extrêmement... Tout ça est lié beaucoup, en fait, aux papas dans le cinéma. C'est-à-dire que même quand on voit dans les films des cinéastes contemporains, il y a toujours des références à la Nouvelle Vague, comme s'ils voulaient encore faire plaisir à Truffaut. Mais à un moment, il va falloir qu'on arrête de faire plaisir à nos anciens et à ceux qui sont restés dans la culture et qu'on commence à avoir envie de faire plaisir à d'autres personnes et arrêter en fait d'être dans ces rapports, encore une fois, de hiérarchie et de domination. Comme si connaître tous ces cinéastes hommes, c'était montrer qu'on avait une vraie culture cinéphile. Mais non, en fait. Moi, la plupart des films dont je parle dans mon ouvrage, c'est des cinéastes dont j'avais jamais vraiment entendu parler. Ça a été des découvertes. Et certaines de ces découvertes viennent en lisant des textes critiques et des textes critiques qui sont, et voilà, produites par des hommes. Mais souvent, ces travaux-là de femmes ont été invisibilisés aussi par cette même critique.
Donc pas discuter. C'est-à-dire que, quoi, ils voyaient les films d'Akerman et ils se disaient, mais... Pas
non,
très intéressant.
Je pense pas qu'ils se disent pas très intéressant, mais ça devient pas une référence. Donc quand ça devient pas une référence, ça tombe dans l'oubli. Et je pense qu'il faut revaloriser certaines œuvres et le fait que voilà que Akerman soit pas connu de tous et de toutes me pose question. Je pense que quand on est cinéphile, presque tout le monde a vu les films de Truffaut et de Godard, mais pas tout le monde a vu les films de Varda. Donc c'est se poser la question de...
J'adore Truffaut, mais je me rappelle du choc de voir les films de Varda. Quel choc, mais quelle splendeur,
moi,
mais quelle...
Je trouvais
ça incroyable. Enfin, et c'est vrai qu'elle est moins citée, en fait, que, que Truffaut ou que Godard. Ouais.
Ouais, alors que Cléo de 5 à 7, c'est un chef-d'œuvre. Et moi, j'enseigne le cinéma et quand, je m'assure que quand j'enseigne à bout de souffle, et je montre aussi Cléo de 5 à 7. Et c'est très intéressant de faire ça, en fait. Quand on est prof, de réintroduire en fait ces films-là qui sont souvent des films oubliés qui moi-même m'ont pas été enseignés quand je faisais mon doctorat, ça crée quelque chose, ça crée un dialogue entre les œuvres et ça crée un dialogue entre mes étudiantes et mes étudiants et moi-même, et ça fait partie en fait, et c'est là en fait où prendre conscience de tous ces mécanismes de domination, on se pose la question, même moi en tant qu'enseignante, de comment j'enseigne, de comment j'établis un syllabus, c'est de la programmation en fait, c'est des choix qui reflètent une manière de penser, et qu'il y a une pédagogie féministe qui peut aussi se mettre en place dans une salle de cours et que ça produit une autre pensée. Et la question, c'est encore une fois de pas éradiquer les œuvres d'hommes, non, de tout, je vais toujours parler de Truffaut et de Godard quand on enseigne la Nouvelle Vague, mais c'est aussi de parler d'Agnès Varda. C'est assez simple comme geste, mais en fait ça change tout. Et c'est aussi de dire à mes étudiants, si vous avez pas envie d'écrire une dissertation en trois parties, écrivez-moi un scénario. Allez-y, produisez un autre geste de pensée, parce que on nous apprend encore une fois d'être dans une logique, d'être dans la pensée, d'être intellectuel, c'est qu'une seule manière de penser. Mais quand on donne la possibilité de réfléchir autrement, de mettre en place d'autres outils créatifs, il y a des choses sublimes qui sortent des gens. Et ça, il faut savoir l'accueillir et il faut créer des espaces pour ça. Alors moi, je le fais à ma toute petite échelle, mais je pense qu'il y a vraiment un manque d'espace de création. Et que c'est ça le female gaze, c'est de recréer cet espace-là.
La dernière question est toujours, quelle est l'œuvre que vous avez envie de recommander ? Quels sont les films qu'il faut absolument voir, à votre avis ?
Il y en a beaucoup, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'une œuvre qui s'appelle Vanda de Barbara Loden. Peut-être que ce serait bien d'en parler quelques secondes, parce que c'est un destin tragique de cinéaste femme, parce qu'elle a fait qu'une seule œuvre et que c'est un chef-d'œuvre, et que ça parle d'une femme qui est perdue, en fait, dans un monde où personne ne la voit. Et je pense que beaucoup peuvent se reconnaître dans cette expérience-là. Et je pense aussi à Marie-Claude Trioux, qui a fait un film sublime qui s'appelle Simone Barbès ou la Vertu, où c'est aussi un premier long-métrage brillantissime que j'ai découvert dans un cinéma récemment à l'Action qui le reprogrammait. Et je me suis dit que c'était dingue, j'avais jamais entendu parler de ce film-là. Et c'est sur une femme qui travaille dans un cinéma porno, qui est ouvreuse, et on la suit pendant une nuit dans Paris. Et c'est une femme qui est amoureuse d'une autre femme et qui est solitaire face à cet amour qui n'est pas partagé et qui remet en question sa trajectoire de vie. Enfin, et d'un point de vue formel, c'est brillantissime. Et toutes ces œuvres-là, je me demande pourquoi est-ce qu'elles ont disparu. Vanda, on ne peut même pas le trouver en DVD, donc il faut...
On ne peut pas le trouver en VOD non plus. J'ai essayé de voir Vanda, on ne peut pas.
Donc pourquoi est-ce que ces chefs-d'œuvre disparaissent de nos écrans, disparaissent de notre culture, disparaissent de nos imaginaires, alors que ces femmes-là, elles ont créé nos images manquantes. Il faut absolument qu'on les remette en valeur.
Retrouver les images manquantes. Très bien, eh bien, merci beaucoup Iris Brett pour cette longue conversation. Je ne sais pas vous, mais cette conversation m'a donné follement envie de partir à la découverte de tous ces regards manquants et donc de visionner plein de films. À la fin de l'essai d'Iris Brett, Le regard féminin, une révolution à l'écran, publié aux éditions de l'Olivier, vous retrouverez la liste complète de séries et de films qu'elle recommande. Et si vous voulez continuer à réfléchir aux représentations genrées à l'écran, je vous fais de mon côté deux recommandations. La première, c'est d'écouter le podcast Mansplaining du journaliste Thomas Messias. Et la seconde, c'est de fréquenter le site Le genre et l'écran, qui se propose de faire une critique féministe des productions audiovisuelles. C'était le 57e épisode des Couilles sur la table. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les références des œuvres citées dans cet épisode dans l'article qui l'accompagne sur le site de Binge Audio, binge.audio.
Les couilles sur la table est un podcast produit par Binge Audio. À la prise de son et à la réalisation, c'était Quentin Bresson et à l'édition, Camille Regache. Merci pour votre écoute. Je lis toujours avec attention vos messages sur les réseaux sociaux ainsi que les lettres que vous m'adressez à l'adresse lescouillessurlatable@binge.audio.